La journée selon Patrick Lagacé.
On parle beaucoup d'alcool au Québec ces jours-ci. Vous allez peut-être me dire, il est le temps. Il est le temps d'avoir cette discussion, évidemment, avec la mort très triste d'Athéna dans la région de Laval. Évidemment, on a discuté de ces boissons fortes en alcool, sucrées, gazéifiées qu'on retrouve facilement dans les dépanneurs. Puis avec Patrick Lagacé, que je salue. Salut Patrick.
Salut Eve-Marie.
On va parler d'une loi assez intéressante, la loi des parasols, j'ai envie de dire. C'est que c'est un bar en Beauce qui a été convoqué devant la justice pour répondre de ses actes. Le problème, c'est qu'il avait déployé 6 parasols identiques sur la terrasse. Le problème, c'est qu'il est interdit au début de boisson de faire de la publicité pour une seule entreprise et ses parasols étaient aux couleurs de Corona Extra, une bière qu'on connaît. Donc ça, c'est pas permis, ça, Patrick.
Ben, il semble que ce soit pas permis d'avoir le même logo de compagnie d'alcool, dans ce cas-ci Corona, sur tous tes parasols, si j'ai bien compris. Et y a une certaine ironie parce que, tu sais, on le sait, tout ce qui entoure l'alcool, ben, il y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup d'organismes qui sont chargés d'appliquer ces règlements et ces lois-là. Et quand tu vois qu'un tenancier de bar est sanctionné parce que tous ses parasols portaient le mot Corona et tu compares ça au fait que on l'a vu dans la saga tragique de la mort d'Athéna Gervais, ben ce type de boisson-là, très explosif, presque 12% d'alcool, hyper caféiné, du guarana, du sucre, au fond, c'est un alcool qui est destiné aux jeunes. Et on leur promet quasiment en toutes lettres sur le web que tu vas te plus vite avec ça. Ça, c'est permis. Ça, c'est en vente libre, il n'y a pas de problème. Fait que c'est sûr que tu sais, c'est deux organismes différents là, qui sont chargés de l'application de règlements différents, mais on revient à l'alcool. Dans un cas, écoute, dans le cas des parasols, bon, regarde, toute la force de l'État te tombe sur la tête pour une niaiserie, mais dans l'autre, tu peux vendre des trucs qui sont destinés à saouler les jeunes super vite, sans aucun problème.
Penses-tu qu'il est temps de faire peut-être un ménage dans les priorités, ou en tout cas que le gouvernement, avec ses ministères concernés, justement, arrête de travailler en silo, puis peut-être fasse une action concertée?
Bien, une action concertée, je sais pas. En fait, moi, je suis de ceux qui pensent que plus l'alcool va coûter l'alcool, plus ça va être dur pour les jeunes de se saouler rapidement, disons, à la récréation, comme ça, on a vu là dans le cas d'Athéna. Moi, je trouve qu'il y a un problème là, et on peut pas dire qu'on savait pas, parce que dès l'automne passé, il y a des médias comme la presse qui faisaient état des préoccupations de la santé publique, des préoccupations d'urgentologues face à des jeunes qui étaient transportés dans des comas quasi-éthyliques dans les salles d'urgence. Donc, on le savait, on peut pas dire qu'on le savait pas. Et là, tout le monde essaie de se refaire une virginité. Là, la compagnie qui produit cette boisson-là, les distributeurs, les dépanneurs, là, on retire le produit, on arrête sa fabrication, mais il y en a d'autres qui sont équivalents, on le sait. Donc, c'est peut-être la conversation à avoir, c'est peut-être plus largement là-dessus.
T'as raison. Parlons de politique fédérale. Je pense qu'on peut dire que la lune de miel, elle est terminée avec Justin Trudeau. Il y a un sondage aujourd'hui. Les conservateurs battraient Justin Trudeau s'il y avait une élection aujourd'hui ou demain, là.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, le sondage est sorti sur la fin de la semaine passée. Et c'est un sondage Ipsos et il confirme un sondage Manos qui avait été publié en décembre dernier. Et dans les deux cas, ce qu'on montre, c'est une chute des intentions de vote pour les libéraux de Justin Trudeau. Évidemment, on est à un an et demi de l'élection. Il peut se passer énormément de choses d'ici là. Mais ça te montre que c'est pas éternel une cote d'amour. C'est pas éternel le fait que tu es une sorte de revêtement de téflon qui fait que rien colle à toi. Et là, on dirait bien que le voyage en Inde, le fameux voyage en Inde désastreux, a cristallisé, disons, le ressentiment qu'il y a face au gouvernement.
Oui.
Et moi, tu sais, je pense que Justin Trudeau devrait faire attention, de se méfier du syndrome de Denis Coderre. Tu sais. Denis Coderre était populaire jusqu'à il y a pas très longtemps, avant l'élection municipale de novembre dernier. Le syndrome de Denis Coderre, c'est être ton pire ennemi, dans le fond. Je pense que Justin Trudeau a les défauts de ses qualités, puis à force d'être trop photogénique, peut-être que tu pousses un peu le bouchon, puis tu fais un fou de toi, puis il y a bien du monde pour prendre ta photo pendant que tu fais un fou de toi.
Mais c'est incroyable, on se souvient de ces foules comme si on attendait une vedette rock, entre autres aux Philippines, pour pouvoir prendre une photo avec lui. Il va en Inde, le voyage se passe pas comme il veut, il devient la risée des médias internationaux avec ses différents costumes, la couverture médiatique est désastreuse. Va falloir qu'il gouverne maintenant pour pouvoir marquer des points?
Ben, il va falloir qu'il gouverne, puis il va falloir, je pense, qu'il contrôle un peu plus, qu'il espace davantage ses photos-op. Il y a beaucoup, tu sais, à chaque jour, il y a une nouvelle aventure de Justin Trudeau, puis je pense que même si t'es dans le camp de ceux qui apprécient ce nouveau style-là, ça se peut que ce soit un peu fatigant de le voir toujours dans une nouvelle aventure, tu sais. Et là, tu mets ça en contraste avec des trucs comme la visite à l'île de la Cacane, des trucs comme ça, des trucs assez sérieux au niveau de son jugement. C'est quand même un premier ministre canadien qui a été trouvé coupable d'avoir enfreint une loi. C'est pas rien. Il a pas enfreint une disposition du code criminel. Mais dans le cas de la Cacane, il a été sanctionné. En fait, il n'y a pas eu une grosse sanction, mais il a été trouvé coupable d'avoir enfreint des lois sur l'éthique. Mm. C'est assez grave. Ça pose la question de son jugement. Et depuis le début de sa carrière politique, c'est toujours ce qui revient. Y a-t-il du jugement ou il n'y en a pas? Mais le voyage en Inde a montré qu'il n'y en avait pas tant que ça.
Hey Patrick, on passe de l'île de la Cacane à l'île de Gilligan.
Dans un pays où il fait chaud sous le ciel des tropiques. À bord, il y avait le matelot et le vieux capitaine. Je
crois.
Elle passait par Gilligan pour trois heures à peine.
Alors, c'est le thème de cette émission.
Tu me replonges en enfance.
Je t'ai choisi ça en français, en plus, les joyeux naufragés.
J'étais probablement début du secondaire quand ça jouait. Je pense que ça jouait tous les jours au retour de l'école.
Ouais, puis tu tripais sur Ginger.
Ben oui, je pouvais... non, c'était plus l'autre, la petite brune, j'ai oublié son nom. mais regarde, oui, on parle de l'île de Gilligan parce que il y a quelque chose à l'Université de Montréal qui se passe présentement, c'est ça, c'est mon collègue Vincent Patrick, Larouche de la presse qui a sorti ça.
C'est Matt Boivin, c'est Marianne, puis moi aussi je trouve bien cute.
C'est Marianne!
C'est ça,
okay, Marianne. Salut.
Salut Mathieu. Vincent Larouche a sorti ça, OK, cette histoire-là. Il y a eu un bras de fer entre un syndicat d'employés étudiants à l'Université de Montréal et la direction. Il y avait une négociation depuis la négociation. La convention collective est si réglée, sauf que ça a laissé des traces parce que l'administration a pas aimé être caricaturée. On a caricaturé toute l'équipe de direction comme s'ils étaient des membres de l'île de Gilligan, des résidents de l'île de Gilligan. On a fait des photos montages, des trucs comme ça, Eve-Marie. Mm-hmm. Et là, c'est encore devant les tribunaux parce que le syndicat est poursuivi, évidemment, avec l'argent de l'université.
Aïe, aïe,
là,
aïe.
Là où c'est complètement fou, c'est que tu sais, tu vis dans la même province que moi, combien de fois t'entends dans une année les recteurs d'université dire ben on n'a pas assez d'argent, on est sous-financé, ailleurs sont plus financés, et j'y crois, c'est correct.
Mon envie que c'est vrai. De dire choisissez vos bagarres quand on lit cette histoire-là. Toujours bien rien qu'une caricature de Gilligan, le capitaine, puis son épouse, là.
Ben voilà, et dans ce contexte-là, tu te dis combien ça a coûté? Combien ça a coûté pour que l'Université de Montréal, qui reçoit des dizaines de millions de dollars en subventions, décide d'aller défendre l'ego du recteur Guy Breton devant les tribunaux? D'une part, puis après ça, tu te dis, en plus de combien ça coûte, combien de jours ça coûte en jours de cours dans une salle de tribunal, des trucs comme ça? En ressources gaspillées.
Vous n'avez pas eu la réponse à la presse sur combien d'argent?
Non, c'est ça. Vincent a demandé à savoir combien ça a coûté en frais d'avocat et on n'a pas eu la réponse. Bref, quand on veut demander de l'argent du public, on a de très bons arguments, mais un truc comme ça, ça frappe l'imaginaire. Puis je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un à l'Université de Montréal qui n'a pas pensé en amont, avant avant de faire un recours comme ça. Si ça sort, on a l'air de quoi? Ben, j'ai la réponse aujourd'hui. Vous avez l'air d'une bande de cartes.
Patrick Lagacé, merci. Tiens, je te remets la trame juste pour te replonger dans tes souvenirs.
Merci. Le Patrick de 12 ans est content.
C'est bon. Salut. À la semaine prochaine. Salut.